Hey ho, let's go, c'est Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B, 462e émission. Aujourd'hui, on inaugure notre session Quai des Bulles 2023 avec un de nos habitués de Quai des Bulles, mais on est content de le voir régulièrement puisque comme ça on se voit progresser mutuellement et vieillir mutuellement. Non, et surtout on découvre le cheminement qu'il a dans son parcours, le cheminement personnel et artistique qu'il a dans son parcours. Il s'agit de Monsieur Pochep, vous avez bien compris, qui vient nous présenter son dernier album qu'il a réalisé avec Monsieur Antoine Idier. Antoine Idier et Pochep analysent la constitution et la transformation des identités LGBTQI+, ainsi que les cultures et toutes les communautés qui ont permis à ces minorités sexuelles de vivre et puis de résister dans des sociétés parfois très hostiles. Ça s'appelle Résistance Queer, Résistance au pluriel, donc une histoire des cultures LGBT qui nous est proposée aux éditions Delcourt. Donc direction Quai des Bulles, nous avons rencontré Monsieur Pochep, c'était le samedi. C'est une longue interview, il y aura même une espèce d'épilogue où nous parlerons de choses peut-être un peu moins sérieuse, mais tout aussi délirante, parce que Monsieur Pochep, c'est de l'humour. Allez, c'est parti. Quai des Bulles, on rejoint Roger, on rejoint Monsieur Pochep, on est samedi. Il fait un temps moyen, mais on s'en fiche. On est en bonne compagnie et à l'abri dans le palais du Grand Large. Direction Saint-Malo.
Change your mind, you know where I am. Now if you change your mind, dans la joie et dans la bonne humeur. Nous sommes de nouveau à Quai des Bulles. Nous sommes toujours à Quai des Bulles. Le temps se gâte, mon bon Erwan. La mer monte. Plus de ça, quand même, il nous arrive, comme tous les ans, de rencontrer Monsieur Pochep. Bonjour.
Bonjour.
Mais cette année, c'est pas pour un ouvrage humoristique que nous vous retrouvons. Résistance queer, une histoire des cultures LGBTQI+.
C'est ça.
Pour m'expliquer aussi le plus.
Oui, c'est parce que l'appellation, tout ça correspond à des catégories et des sensibilités de personnes et ça reste complètement ouvert.
D'accord.
C'est-à-dire, pendant très longtemps, on a dit LGBT et finalement, il y avait aussi d'autres sensibilités.
Un des intérêts de ce livre, c'est justement de nous mettre un peu à la page, parce que je dois avouer que j'avais enfin, effectivement, moi, j'étais toujours LGBT, gay, enfin, des mots, je sais pas, hérités des années 80, on va dire. Et c'est vrai que je m'étais bien rendu compte que, on n'allait rien qu'à la Gay Pride, c'était pas les mêmes Gay Pride, celle de cette année, que les années avant. Les trans étaient beaucoup plus présents, par exemple.
Exactement, oui. Et lesbienne, gay, bi, etc. C'est aussi l'aventure de ces mots qui changent un peu d'appréciation au fil des décennies. Des mots qui étaient considérés comme très péjoratifs deviennent des mots militants aujourd'hui. Et le mot queer, qui, en faisant cet ouvrage, même si j'étais sensibilisé à cette histoire dès le départ, j'ai appris plein de choses. Et le mot queer, qu'on croise beaucoup aujourd'hui, et qui est un mot valise un peu pour fédérer justement toutes ces sensibilités. Le mot queer, au départ, c'est aux États-Unis, dans l'entre-deux-guerres, c'est une insulte, c'est un peu l'équivalent de notre PD lorsqu'il est lancé comme une insulte. Et voilà, c'est vraiment aussi une aventure des mots et,
Et du vocabulaire. Alors, comment est né cet ouvrage que vous avez réalisé en compagnie de monsieur Antoine Idier, un encyclopédiste, un chercheur?
Alors, c'est d'abord aussi à l'initiative de Sylvain Vénère, qui dirige aussi la collection Histoire dessinée de la France, collection où j'avais déjà fait l'ouvrage sur les guerres de religion. Sylvain, que j'avais déjà croisé dans le cadre de la revue dessinée. La revue dessinée, je leur avais fourni il y a quelques années un reportage sur la rue Sainte-Anne. La rue Sainte-Anne qui, dans les années 70-80, était un peu l'ancien Marais, c'est-à-dire c'était un quartier gay de Paris qui ne fonctionnait pas comme le Marais aujourd'hui ouvert avec des établissements où il y a des terrasses, des gens. C'était une rue qui fonctionnait surtout la nuit, il y avait beaucoup de prostitution. Le jour, tout était fermé, il n'y avait pas de vitrine ouverte, etc. Donc ça correspondait à une possibilité qu'offrait la société et en même temps avec énormément de limites, c'est-à-dire pas véritablement d'ouverture sur l'extérieur. Donc moi j'avais fait ce reportage, j'avais dit à Sylvain que j'aimerais pousser cette histoire beaucoup plus loin, c'est-à-dire remonter le temps aussi, voir qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60, 40, qu'est-ce qui s'est passé au 19e siècle. Le temps a passé, Sylvain Vénère a lancé cette collection de sciences humaines en coédition La Découverte Delcourt et il est revenu vers moi avec ce projet, sachant qu'il voyait que j'avais un intérêt évident à vouloir raconter cette histoire. La raconter tout seul, c'est pas possible, je suis pas historien, je sais pas comment aller fouiller dans les archives, etc. Antoine, lui, qui est un chercheur qui doit avoir 32, 33 ans, et il est spécialiste de tous ces mouvements-là et de toute cette histoire-là.
Il est maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye.
Voilà.
Et il a notamment publié déjà les vies de Guy Hockenheim. Ça n'a rien à voir, par contre, avec le...
Guy Hockenheim, c'est un militant homosexuel des années 70.
Oui. OK. Ainsi qu'une archive des mouvements LGBT+, chez Textuel. Est-ce que Pureté et impureté de l'art, c'est aussi dans le même domaine, même registre?
Alors, je ne connais pas cet ouvrage. J'imagine que parfois, il doit évoquer cette histoire-là, mais à mon avis, ça table plus large, je ne sais pas.
Est-ce que ça se place, j'aime pas trop cette expression-là, mais est-ce qu'un projet comme ça, qui va parler d'homosexualité, est-ce qu'aujourd'hui, ça se place facilement, plus facilement que ça aurait pu se faire il y a 10, 15, 20 ans?
Ah, bonne question. Alors, je veux croire que oui. En tout cas, les éditeurs qui nous ont accompagnés sur ce projet y croient. Et manifestement, d'après ce que j'ai compris, quand l'idée a été lancée et qu'ils ont commencé à communiquer auprès des libraires, auprès des médias, il y a eu un intérêt immédiat pour le sujet. Et j'espère bien qu'on va trouver un public. Nous, on a fait vraiment un ouvrage où on essaie de... C'est assez dense, on évoque beaucoup de choses sur cette période de 150 ans. Mais Antoine, il est arrivé avec son savoir-faire d'universitaire. Il m'a livré une quantité de textes incroyables. On avait un périmètre de 140 pages. Moi, je voulais aussi laisser s'exprimer mon dessin. Et aussi... faire en sorte que ne pas faire un livre de spécialiste. Il y en a qui connaissent, ceux qui sont souvent dans ces milieux-là connaissent déjà un peu cette histoire où il existe des tas d'ouvrages. Moi, avec cette bande dessinée, qui sur le sujet, sous cette forme-là, est sans doute une première. Et le but, c'est de rencontrer tous les publics possibles.
C'est ça qui est intéressant, et ça passe d'autant mieux. Ben, on vous avait non pas rencontré, parce qu'on avait fait ça par téléphone, je crois, votre ouvrage sur la guerre de religion, et le passage horrible de la Saint-Barthélemy, vous arriviez à le faire passer, parce que c'était rigolo avec le gros bonhomme, avec l'épée qui rentre, qui rentre dans le ventre des bonhommes, alors que le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est l'apocalypse sur Terre, on est tripes, on viole sa voisine, enfin c'est n'importe quoi.
Là, il n'y a pas tout ça.
Non, mais il y a quand même vos petits dessins rigolos, avec les petits cupidons, j'aime bien les petits bonhommes que vous faites parfois avec un petit froc. Est-ce que c'est parfois critiqué au sein de la communauté homosexuelle, disant ah Monsieur Pochev c'est bien mais vous êtes pas assez sérieux.
Alors je pense pas être le dessinateur ou l'illustrateur le plus en vue dans cette communauté. Et je sais qu'il y a plein de jeunes dessinateurs, jeunes dessinatrices qui s'expriment notamment beaucoup via Instagram et différents réseaux, qui sont peut-être beaucoup plus suivis que moi sur ces thématiques-là. Après, j'ai un trait qui date un peu, je pense qu'il est... Mais après, j'ai pas eu de retour spécialement critique par rapport à la forme que je peux mettre là-dessus. Et après, ceux qui me suivent savent que cette thématique-là, je l'évoque régulièrement. C'est-à-dire, c'est pas une nouveauté, c'est pas une nouveauté pour moi, et que mon premier postulat, c'est quand même l'humour et l'absurde. Dans ce type de projet, bien sûr, j'en mets, et je pense qu'on fait appel à moi aussi pour apporter un peu de
fun et pour faire passer.
Après, mes curseurs humoristiques et de traits, je les module beaucoup selon les projets. Et dans cette histoire-là, les presque deux siècles de cette histoire, il y a des moments quand même qui sont lourds et graves.
Ah ben la Shoah notamment.
Et puis toute la répression policière qui dure, qui persiste, etc.
Ça, c'est
donc
très
il y a
présent,
des gens qui ont été fichés, il y a des gens qui ont été photographiés. Et dans ce cas-là, je me dis, ok, tu vas y aller mollo sur le rire. Je ne voulais pas que mon dessin, des fois, vienne contrecarrer ou contrarier la gravité d'un propos.
En même temps, vous conservez quand même toujours votre trait rond, rigolo. Il y a des petites appliques là, dans la déco de chez le monsieur qui reçoit les deux jeunes, là, avec un espèce de petit cupidon tout vilain. Et j'adore, c'est là, je vous dis, tiens, j'adorerais avoir ce vilain, ce genre de statue complètement barré sur la cheminée. C'est une espèce de grosse bonne femme.
C'est ce que j'allais dire pour permettre de traverser ces deux siècles. Donc, et pour pas faire encyclopédie universaliste, quoi. Vous avez créé un petit scénario, effectivement, deux petits jeunes qui rencontrent un ancien, on peut dire ça comme ça, qui va un peu les initier et leur rappeler finalement toute une histoire dans laquelle ils s'inscrivent sans peut-être même le savoir. C'est ça en fait. C'est une espèce d'initiation intellectuelle.
Initiation et transmission. C'est-à-dire la question des archives et la question de cette histoire-là. Alors on peut penser plus particulièrement les gens qui ont milité pendant les années 70, etc., qui aujourd'hui arrivent, sont à la retraite ou sont déjà à un âge plus avancé. C'est ne pas perdre le lien avec toute cette histoire-là, tous les problèmes ne sont pas réglés. Vous évoquiez tout à l'heure la question trans et j'ai l'impression que c'est eux qui sont vraiment sur le front aujourd'hui à revendiquer et en même temps à s'en prendre souvent plein la gueule en retour. Mais voilà, c'est une histoire qui est encore en train de s'écrire. Le grand intérêt pour moi, c'était de revenir vraiment au tout. On va dire que l'histoire des années 90-2000, elle est encore en train de se faire. Les acteurs sont encore là, etc. Et il y a des ouvrages qui ont été faits autour du sujet. Mais c'était vraiment revenir sur ne serait-ce que la création du mot homosexuel qu'avant. D'entamer ce projet, je ne m'étais jamais posé la question. Je pensais que ce mot existait depuis toujours.
C'est le titre du premier chapitre, l'invention de l'homosexualité.
C'est ça le titre du nouveau chapitre, j'ai trouvé bizarre. L'invention, le titre du chapitre, c'est le premier chapitre.
L'invention de l'homosexualité.
Voilà. Comme si cette forme de sexualité apparaissait du jour au lendemain. Expliquez-nous en fait, c'est pas qu'elle apparaît, elle apparaît pas du jour au lendemain, mais qu'est-ce qui se passe ?
Il y a toujours eu des homosexuels, sauf qu'ils n'étaient pas nommés et considérés comme ils ont pu l'être à partir du 19e siècle. Le 19e siècle qui se caractérise par son approche médicale, scientifique, en prenant des fois des chemins qui ne sont pas les bons, en testant des choses, en ouvrant la voie à des choses qui vont résonner avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Le 19e siècle donc, s'empare de ces sujets, les traite de manière plus ou moins heureuse ou malheureuse, mais ça sous-entend qu'au sein de cette société, il y a des groupes d'individus et des comportements qui ne sont pas forcément compris, qui vont même des fois être... il y aura une répression policière, etc. Mais on va porter un intérêt à ces gens-là. Et ces gens-là, eux-mêmes, pour la première fois, se considèrent comme des individus inscrits dans ces sociétés, parce qu'on évoque la France, mais on évoque aussi un peu l'Angleterre, l'Allemagne, on fait un détour aux États-Unis, qui veulent être reconnus pour ce qu'ils sont et qui ne veulent plus être considérés comme des anormaux, des monstres. Donc, et qui mettent en place, c'est pas un groupe qui est fédéré, c'est pas des communautés qui communiquent entre elles, mais il y a des embryons de culture LGBT qui se mettent en place.
Oui, les saunas, etc. Il y a des lieux de rencontre, quoi.
Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que on apprend que la Révolution française très vite fait sauter un verrou.
1792.
Voilà, 1791. Le crime de sodomie n'a plus lieu d'être, etc. Donc, on aurait pu penser que à partir de là, tout était réglé, et en fait, non. C'est-à-dire, même s'il y a eu des tentatives plus tard de relégiférer en criminalisant un peu
l'acte
ce type
sexuel,
de comportement.
Homosexuel était plus criminalisé, mais il restait l'espèce de convention sociale qui pesait sur les homosexuels, en fait.
Oui, complètement. Donc même si l'État laisse entendre que ça n'est plus un problème, effectivement, la société et la pensée en général n'acceptent pas encore ça, et il y a beaucoup de suspicions sans cesse, il y a toujours la hantise de la corruption de la jeunesse.
C'est exactement ce que j'allais dire. Ça, c'est le sparadrap du capitaine Haddock, ça vous colle au...
Ça revient tout le temps.
justement, dans l'invention de l'homosexualité, alors on découvre plein de bonhommes que j'avais jamais entendu parler. Frédéric Engels, oui, je le connaissais, le pote barbu de Marx. Mais il s'est opposé parce que cette invention de l'homosexualité a permis à des chercheurs, je ne sais pas si on peut utiliser aussi, parce que Kraft Ebing, c'était véritablement un chercheur, Frédéric Engels, le pote de Marx à sa façon, mais du coup... On en a qui vont, à partir du développement des recherches sur l'homosexualité, en profiter pour défendre la cause homosexuelle, comme Kraft Ebing, c'est dur à dire, hein. Kraft Ebing.
Oui, et... moi-même, je saurais mal le répéter.
Et à l'opposé, le Frédéric Engels, qu'on pourrait croire ouvert, etc., lui, non,
ah oui, il est,
l'homosexualité, c'est un problème à la lutte des classes.
Oui, parce que souvent, l'homosexualité, même tardivement, et c'est ce qu'on voit dans l'ouvrage jusque dans les années 70, sur les mouvements très à gauche, elle était liée aussi à une espèce d'oisiveté bourgeoise. Enfin, voilà, c'était la décadence des
inspirée par le dandysme et ce genre de
Oscar Wilde. Exactement. Voilà. Après, la classe ouvrière n'avait ni le temps ni l'envie de goûter à l'homosexualité, je sais pas comment le dire,
etc. C'est assez hallucinant quand même, ouais. Ça.
Après, ce qu'on voit aussi, c'est que l'homosexualité, c'est toujours le fait d'un autre, d'un autre groupe, etc. Et on voyait que dans l'entre-deux-guerres, quand à Berlin, en Allemagne, il y a une espèce de zone d'aération, de libération, où les gens peuvent se retrouver là-bas,
Babylone,
avant
Berlin.
Que le nazisme, voilà. Mais c'était connu comme un mal allemand. Aux États-Unis, ils considéraient que c'était tous ces jeunes soldats qui étaient allés se battre pendant la Première Guerre mondiale en Europe et qui avaient ramené cette tare, comme ils disaient, d'Europe, etc. C'est toujours, toujours le fait d'un autre. Voilà.
Pour progresser un petit peu dans l'album, donc vous organisez une série de chapitres qui sont en fait qui suivent la progression de la discussion entre les personnages. Comment vous avez déterminé justement cette progression et les thèmes qu'il fallait aborder? Comment vous avez géré ça?
Alors, quand j'ai commencé à discuter avec Antoine, lui qui n'avait jamais, ni entendait rien à la bande dessinée. Je pense qu'il en avait même lu très peu. Et,
ça n'est parfait.
Et alors, il n'y a pas longtemps, il vient de découvrir sur mes conseils le travail de Fabrice Snow et il a l'air... emballé, charmé. En tout cas, je lui ai dit, pour avoir déjà travaillé avec des sociologues et des historiens, je sais qu'ils ont une foule de choses à dire, que je vais devoir en jeter beaucoup, mais et qu'ils ne vont pas me livrer un scénario, donc je sais que je vais me retrouver avec un gros travail quand même de découpage. Antoine, je lui ai quand même imposé, d'une part, d'incarner cette histoire. C'est-à-dire, c'est lui qui a créé, même s'il ne les avait pas encore nommés, mais il a créé ce couple de jeunes hommes qu'on voit au début, et Stan, le personnage plus âgé. Donc, voilà. Et ce qui lui a permis ensuite de dérouler le récit. La composition en chapitre, elle, c'est comme on fait des fois, on évoque des chansons, on évoque un passage où on évoque aussi la littérature. C'est aussi pas dérouler un récit qui aurait l'air juste d'être un cours d'histoire du début à la fin, ou alors cours d'histoire et à la fin on va enfin vous parler de littérature. C'était aussi la volonté de montrer que tout ce mouvement, on parle d'histoire, on parle de législation, on parle de médecine et on parle aussi de culture, c'est-à-dire la culture n'est pas reléguée en bout de... Tout ça se fait en même temps.
Parce que la culture est aussi une manière de militer, finalement.
Complètement.
J'ai découvert Virginia Woolf, là, Orlando. C'est quand même un personnage incroyable.
Au moment où ça paraît, etc. Alors que toutes ces questions-là, sur la transidentité, on s'aperçoit qu'elles ont déjà été évoquées de nombreuses fois. Ce que j'ai appris aussi, c'est tout ce mouvement des garçons dans les années 20, où finalement ça faisait réagir aussi un peu de la même manière parfois aujourd'hui, où la question du genre, quand elle ne semble pas affirmée à travers des vêtements, une façon d'être, etc., elle perturbe beaucoup. Et je me dis, il y a des, vraiment un siècle plus tard, on est encore en train de se poser les mêmes questions, où les gens rencontrent les mêmes difficultés à être eux-mêmes.
Est-ce que ces difficultés-là, et ça vous en parlez aussi beaucoup, du vocabulaire, le vocabulaire employé pour désigner les homosexuels, et comment, plutôt que d'utiliser le terme d'homosexuel ou gay, un mot qui nous vient des États-Unis, mais ceux qu'on va utiliser le plus sont sodomie, tente, tapette, et surtout un que je déteste particulièrement, c'est pédéraste. Comment se fait-il qu'effectivement tous ces noms-là aient finalement aient plus d'écho que d'autres noms plus génériques qui ne sont absolument pas marqués?
Après, il y a des mots comme pédéraste ou sodomite. Alors, qui pédéraste, ont quand même...
ça vient d'où ça, pédéraste? Je trouve que c'est le plus infamant. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être là, le suffixe en raste qui fait vilain.
Malheureusement, là, c'est peut-être plutôt Antoine qui saurait vous répondre. Mais comme je vous disais au début, voilà, c'est ce vocabulaire qui se veut souvent blessant,
stigmatisant.
Et il y a des mots parfois qui sont que la communauté, le mot pédéraste, pédé, c'est une insulte très courante, mais qui se réapproprier les mots, se réapproprier le stigmate, comme on l'a écrit, pour en faire finalement un étendard. Voilà, exactement. C'est voilà, ces mots qui tantôt blessent, tantôt portent des idées. Et on avait, avec les éditeurs aussi, et avec Sylvain Venner et Antoine, on s'est beaucoup posé la question du titre. Quel titre donner à cet ouvrage? Même s'il y a un sous-titre qui vient aider à... Voilà. Donc, on a eu plein d'idées au début. On partait sur le mot « inverti », qui était aussi un mot pour désigner les homosexuels. Donc, qui est un mot aujourd'hui assez désuet, etc. Mais en posant la question autour de nous, on s'apercevait que peu de gens, il fallait vraiment faire partie de la commu pour le savoir, mais à l'extérieur, peu de gens voyaient à quoi ça se rapportait, ils pensaient que c'était lié au fait d'être introverti, etc. Donc on va abandonner le mot inverti qui était séduisant, mais qui parlait à trop peu de monde. Et on en est venu finalement à queer, qui, je pense, dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui, là, les années 2020, je pense que qu'on fasse partie ou pas de cette communauté parle à beaucoup de monde.
Et c'est résistance au pluriel.
Oui, il y a des on voit que les groupes avancent pas forcément de manière très cohérente, mais par exemple dans les années 50, on voit qu'il y avait ce fameux groupe Arcadie qui avançait d'une certaine manière, plus soft, moins revendicative et qui finalement se sont retrouvés désavoués par les groupes militants des années 70 qui ne les trouvaient pas assez militants, assez vindicatifs, assez revendiquants, etc. etc. Donc il y a la lutte peut prendre plein de formes. Une autre forme de résistance aussi, même si ce n'est pas des pancartes dans la rue, c'est tous ces gens que la police allait chercher dans les saunas ou dans les bars. Et finalement, c'est des gens dont on montrait le visage, dont on donnait le nom dans les jeux, dans la presse, etc. C'est des gens qui, malgré tout, par un désir de vouloir toujours être et de s'affirmer, revenaient. Ils étaient photographiés, ils étaient fichés, ils prenaient un grand risque. Ça peut être,
à un moment, il y a des carnets avec des annotations qui sont faites dans les
archives. Les archives de la police, les noms, où est-ce qu'ils ont été
passifs,
où est-ce qu'on les. Exactement, voilà.
Là, il y a juste une volonté de stigmatisation, en fait, parce que la loi est en faveur des homosexuels, puisque comme on n'est plus condamné pour homosexualité, mais on est condamné pour débauche, en fait. C'est un peu bizarre.
Si on ne peut plus condamner une personne pour quelque chose. On trouve toujours, je pense que la police et certains décideurs ou législateurs ont essayé de toujours trouver un moyen de
et on recherche à travers la stigmatisation. Ouh, celui-ci, il s'est fait choper et puis on le met dans le journal. Et
ce qui est terrible dans cet album, c'est qu'on voit qu'il y a la loi d'un côté et il y a aussi finalement l'opinion publique, quoi. Et en fait, le cheminement entre les deux est
après,
hyper
c'est
compliqué.
Là où on se rend compte que les sociétés, une société, c'est une énorme machine. Et pour faire bouger tout ça, ça demande un temps fou. Hein.
Alors ceux qui vont faire, pardon, ceux qui vont faire bouger tout ça, c'est notamment les, enfin, j'aime pas ce terme-là, moi, mais les intellectuels, on va dire, en tout cas ceux qui sont connus, des écrivains, des chanteuses, etc. Est-ce que parmi toute cette galerie de personnages dont vous parlez dans votre ouvrage, lequel êtes-vous le plus attaché, lequel qui vous parle le plus ?
Eh ben, dans tout ce qu'on a fait, sans doute Virginia Woolf, que je connaissais très mal, et notamment tout l'ouvrage Orlando. J'ai vraiment beaucoup aimé traiter ce passage, parce que je le trouvais parfaitement en résonance à notre quotidien aujourd'hui, et alors qu'il a été écrit dans les années 20 ou quelque chose comme ça. Et je trouvais cette histoire incroyable, parce que c'est cette personne qui est un peu immortelle et qui va changer de genre comme ça sans qu'on y prête un peu attention. Et finalement, la problématique ne vient pas d'Orlando, mais de l'entourage qui ne se comporte plus de la même manière dès lors qu'il y a ce changement, etc. Et je trouvais ce récit très très moderne, très très contemporain.
Oui, et puis qui éclaire vraiment, c'est le regard posé sur la personne qui vient. Le débat est là.
Oui.
C'est pas la personne, elle a son identité, c'est ce qu'elle est, quoi.
Et ce que je trouve aussi courageux à travers ces auteurs, c'est de raconter ces histoires sur le papier, etc. Parce que je pense que nombre de personnes ont pu être terrorisées par ce qu'ils ressentaient ou ne jamais ambitionner le mettre sur papier ou le chanter, etc. Après, on évoque Charles Trenet, où il y a, vous avez ces chansons un peu à, on comprend ou on comprend pas. Mais même si on comprend pas, il nous reste une belle chanson.
Oui.
Un jardin extraordinaire.
Juliette Gréco. Ça m'a surpris aussi, vous parlez de Juliette Gréco.
Ah oui.
Elle était donc homosexuelle, Juliette Gréco, je ne savais pas.
Ou bi ou homosexuelle, mais en tout cas, elle a eu notamment cette histoire, si je ne me trompe pas, avec Françoise Sagan, etc. D'ailleurs, oui. Et quand on ne le sait pas, ça n'empêche pas d'apprécier les titres.
Oui, bien sûr.
Et quand on a l'info,
moins.
Comment ?
On comprend moins les paroles.
Ah, on comprend autre chose.
Charles Trenet, c'est marquant, puisqu'avec ses statues, les jardins extraordinaires,
ça fait une relecture incroyable de la chanson.
Maintenant que j'ai lu votre ouvrage, et je chantais les jardins extraordinaires, et on nous faisait chanter ça à l'école.
Ça n'empêche pas de ce sont des récits ou des textes à clé qui peuvent donner l'impression d'être des fois réservé à des initiés, mais comme je vous le dis, ça n'empêche pas d'apprécier une chanson qui est les titres de Trenet, ils sont quand même largement rentrés dans la mémoire populaire.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet ». On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver, dans cette grande ville maussade, où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard dans ce jardin extraordinaire, loin des noirs buildings et des passages cloutés. Il y avait un bal que donnait des primevères. Dans un coin de verdure, des petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune. Dès que celle-ci parut toute rose d'émotion, elles entonnèrent, je crois, la valse brune. Une vieille chouette me dit, quelle distraction! Maman, dans ce jardin extraordinaire, je vis soudain passer la plus belle des filles. Elle vint près de moi et là me dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les hommes dans les yeux brillent. Il fallait bien trouver dans cette grande ville perverse une gentille amourette, un petit flirt de 20 ans qui me fasse oublier que l'amour est un commerce dans les bars de la cité. Oui mais pas dans, 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 dans mon jardin extraordinaire. Un ange du bizarre, un agent nous dit: étendez-vous sur la verte bruyère, je vous jouerai du luth pendant que vous serez réunis. Cet agent était un grand poète, mais nous préférions Artémise et moi, la douceur d'une couchette secrète qu'elle me fit découvrir au fond du bois. Pour ceux qui veulent savoir où le jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Bal de nuit, les oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise, ô douceur, extase de l'amour, je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle et pareille au premier jour, et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire. Il suffit pour ça d'un feu d'imagination.
Alors, en remontant ça le cours de l'histoire, donc c'est une histoire du militantisme, et les choses sont encore des fois rendues pires par des contextes historiques, la Deuxième Guerre mondiale ou les années du sida, oui. Où là encore, les choses deviennent encore plus complexes, parce qu'il y a des forces maintenant extérieures qui viennent encore plus peser. Les années sida, par exemple...
Dans cette histoire qui se déroule avec difficulté, avec des accros, quand on pense qu'il y a une sorte de chape de plomb qui commence à se lever un peu, vous avez le sida, c'est vraiment une vague qui tombe toute sur cette communauté et qui fait ressortir aux yeux de ceux qui ne s'inscrivent pas dans le mouvement homosexuel et qui ne sont pas eux-mêmes homosexuels, tous les poncifs d'insultes, de répression, de crainte, de suspicion, etc., ressortent à ce moment-là. Ça n'est jamais oublié. Et donc le sida, aujourd'hui il y a des traitements, etc. On va dire, c'est une maladie qui tue toujours aujourd'hui, mais le gros de la vague est peut-être passé et derrière nous, mais ça laisse bien. Mais comme quand vous avez le débat sur le mariage pour tous, vous avez des cohortes de gens
qui réapparaissent.
Voilà, exactement. Toujours avec, et là aussi pendant la manif pour tous, c'était toujours les mêmes poncifs, protégeons les enfants, etc.
Un papa et une maman. Oui. Et dans ce chapitre, toujours dans le deuxième, vous parlez également aussi, parce que on ne parle pas que de l'homosexualité masculine, mais aussi d'homosexualité féminine. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que femmes et hommes ne vont pas mener le même chemin, le même combat, les mêmes vecteurs de lutte. Vous pouvez nous en parler un petit peu en ce qui concerne les femmes, la mode
les
des
femmes
garçons
sur, les femmes sur le regard que portait au 19e siècle la médecine ou la psychiatrie ou la science. Les femmes, c'est toujours la double peine. C'est-à-dire qu'elles sont femmes, déjà. Donc elles ne sont pas spécialement, aux yeux des gens de cette époque, un sujet d'étude, etc. Et lesbiennes, c'est encore... C'est
la double peine, même si...
C'est la double tare, dans ce cas-là.
Donc, même si c'est une espèce d'ambiguïté, ambiguïté que vous montrez bien chez les hommes, parce que les hétérosexuels, les lesbiennes, ça les excite.
Oui, exactement.
Alors, autant l'homosexualité féminine va les repousser, mais par contre, les lesbiennes, il y a un petit côté salace.
Comme quoi, c'est souvent le regard hétéronormé, qui est porté sur ces gens-là. Et que tous les homosexuels, les lesbiennes qui vont se retrouver confrontés à ça et qui vont lutter contre ça, vont devoir faire changer les idées et combattre ou affirmer, au moins parler par eux-mêmes et non pas donner la seule voix toujours aux mêmes. Et dans les années 70, il y a eu la création de tas de groupes comme le Phare, etc. Et les lesbiennes et gays se sont retrouvées dans ce même combat, mais très vite les lesbiennes ont compris qu'elles avaient plus à gagner à militer auprès du MLF, même si ça n'était pas simple parce que chez les femmes hétérosexuelles du MLF, on pouvait penser que les revendications lesbiennes, c'était secondaire, où ça venait retarder, parasiter le combat général des femmes. Pour les lesbiennes, je crois que ça a toujours été compliqué de trouver leur place dans tel ou tel groupe, et que c'est aussi, chaque groupe finit par se dire « Ok, on va prendre les choses en main nous-mêmes parce que on manque de renfort, on manque d'assistance, ou on n'est pas compris, ou alors on est rapidement mis de côté. » Il y a une hiérarchie dans les luttes qui est établie et qui est...
C'est ce qu'on voit dans l'évolution du sigle, par exemple, de LGBT, les nouvelles lettres qui se rajoutent, ouais. parce que des nouveaux groupes veulent exister, en fait, tout simplement.
Exactement.
Et être reconnus.
La multiplication des cas n'empêche pas le fait de se retrouver aussi et de mener des luttes communes. Après, chacun un peu, chaque personne a son ressenti. Là, je reprends les propos d'Antoine Idier quand on lui posait la question sur la multiplicité de toutes ces appellations. Il me disait, mais c'est aussi parce que le ressenti d'une lesbienne n'est pas le ressenti d'un gay, etc.
Est-ce que, moi j'ai l'impression, je me cours peut-être, mais aujourd'hui j'ai l'impression que les femmes comme homosexuelles sont plus sur la brèche, peut-être que c'est un biais de journaliste, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on les voit plus à la pointe du combat que les homosexuels hommes, je me trompe peut-être, je sais pas.
Alors je pense que c'est pas faux ce que vous dites, et je pense que c'est aussi lié d'une manière générale que, au-delà des lesbiennes, c'est tout le mouvement féministe qui aujourd'hui le mouvement féministe n'est pas né il y a 5 ou 10 ans, etc. Non. Mais c'est par vague, et aujourd'hui, depuis MeToo, la parole des femmes est...
Il s'interroge avec le mouvement trans, par contre, le mouvement féministe, la question des femmes trans, enfin...
Ah, ça veut dire que dans tous ces...
Arrivent des nouvelles problématiques à chaque fois.
Toute cette communauté, elle a affaire à tout ce monde hétéronormé extérieur, mais elle a aussi affaire à toutes les contradictions qu'elle porte en elle-même, c'est-à-dire tout le monde n'est pas d'accord, et ça donne lieu à des débats vifs, des désaccords, des colères. Même la dernière marche des fiertés à Paris, où le collectif des associations LGBT a décidé de ne plus, qu'il n'y aurait plus de chars motorisés sur le... qu'on voyait d'habitude entre les... Et ça a donné lieu aussi à des débats assez puissants au sein de la communauté elle-même.
Ah oui, parce que les chars, la musique, ça fait partie.
Donc il y a ce côté festif qui disparaissait peut-être immédiatement, mais je pense que char ou pas char, même s'il n'y a pas de char, il y a sans doute moyen de... Là, c'était une première sans char. Donc peut-être que la prochaine sera toujours sans char, mais mieux, j'en sais rien, je ne sais pas.
Alors, est-ce que je me trompe ou j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, il y a eu certains progrès qui ont été faits, peut-être une plus grande acceptabilité, parce que j'en veux pour preve le fait que dans l'actuel gouvernement Macron, on trouve quand même 3 ministres homosexuels qui l'ont revendiqué, qui l'ont dit, on peut leur donner leur nom parce qu'ils l'ont dit. Je ne suis pas persuadé qu'il y a 20 ans, des hommes politiques auraient pu affirmer haut et fort leur homosexualité comme ça.
Alors, si je peux rebondir et compléter, on a l'impression effectivement qu'il y a une forme de banalisation, même dans des mouvements, disons, à droite, très à droite.
Oui, bien sûr. Oui,
on
oui,
a des députés qui ne cachent pas leur homosexualité. Pourtant, ils sont dans une chapelle ou dans un courant politique que traditionnellement on n'aurait pas transmis, très réceptif. Mais bien sûr, c'est ce que je te dis.
Oui, il y avait Florian Philippot.
Et il n'y a pas que lui.
Ouais,
pas que lui.
Ouais, mais alors, comme quoi,
je me souviens d'un article de Tétu qui disait que c'est là où il y avait le plus de députés d'ailleurs homosexuels.
Ça devrait être la meilleure preuve que les homosexuels sont des gens absolument comme les autres.
Ben oui, voilà. Ce sont des hommes et des femmes comme les autres, de toute façon. Est-ce qu'il n'y a pas une plus grande acceptabilité de la part de l'opinion publique?
Je pense que c'est en France. J'ai envie de dire que oui, c'est-à-dire que il y a, voilà. Après, ça n'empêche pas, ça n'empêche pas qu'il y ait toujours des agressions, ça n'empêche pas qu'il y ait aussi voilà, des jeunes qui vont être rejetés par leur famille. C'est juste que le du tout répressif, de la totale incompréhension des passés, où il y a une part de la société qui reconnaît, pour laquelle ça n'est plus un sujet, etc., on fait le grand écart entre des choses et des esprits qui n'ont pas l'air de comprendre et de bouger, et de l'autre côté, une beaucoup plus grande ouverture à accéder.
Là où avant le combat était effectivement sur le plan légal, la répression policière et tout ça, maintenant on est dans des temps beaucoup plus compliqués parce que c'est au niveau des individus que ça se joue.
Eux-mêmes, c'est-à-dire comment ils
la
vont...
La tolérance, exactement. Il n'y a pas que sur la question homosexuelle mais on est vraiment dans des temps d'intolérance. Et l'État a beau dire, a beau faire, a beau essayer de communiquer... On voit bien qu'il y a dans la société des courants obscurs dans tous les sens.
Mais comme je vous disais, les sociétés, c'est des machines tellement énormes, c'est très très dur à faire bouger. Ça bouge, somme toute.
Mais peut-être pas assez vite. Ma femme me montrait encore cette semaine, dans le Canard enchaîné de cette semaine, à Londres, lors d'une manifestation en faveur de la Palestine, des militants LGBT se sont pointés à la manif et se sont fait dérouiller par les manifestants pro-palestiniens. Ils ont dit « Ouais, on veut pas de guerre, c'est une cause pure, etc. » Ils leur ont tapé dessus, ils ont piétiné, brûlé leur... Je sais pas si vous avez vu cet article-là.
Là, j'ai pas vu, mais...
C'est le canard de cette semaine.
Ça, c'est des choses qui arrivent encore, malheureusement, régulièrement.
Donc, il y a une acceptabilité, mais pas encore... Combien de temps ça vous a pris, M. Pochep, un ouvrage pareil? C'est une somme, quand même.
Oui, alors j'ai finalement avancé assez vite. Antoine, lui, a commencé à écrire à la fin de l'année dernière. On m'a livré l'équivalent des 2-3 premiers chapitres en novembre-décembre. J'ai dû commencer en janvier. J'ai avancé assez vite quand même. J'étais vraiment très motivé par le sujet. Et ma technique de travail aujourd'hui, je fais tout à l'iPad. Comme l'ouvrage que vous avez ici, La Pierre Bleue, aussi je l'ai fait à l'iPad, ça me permet de tracer très très vite et d'être quand même très libre dans mon expression, contrairement à il y a quelques années où je dessinais encore sur papier. Je me restreignais beaucoup parce que je n'osais pas être aussi aventureux dans l'expression de mon trait. Aujourd'hui, avec l'iPad, les déformations, il y a des fulgurances des fois de dessin, l'iPad me le permet, avec un trait beaucoup plus épais et appuyé.
Mais vous n'avez plus de traces par contre.
Comment ?
Il vous a plus de traces du dessin par contre là-dessus.
J'ai des fois quelques bouts de brouillon, quelque chose comme ça, mais même avant, quand je dessinais complètement sur papier, je n'avais de toute façon aucune planche cohérente, c'était que des choses dessinées en vrac que je réunissais ensuite sur Photoshop, et la plupart de tout ça, n'ayant pas de place chez moi et une cave très humide, tout est parti à la poubelle.
Il y a un truc qui m'a fait rire à un moment dans votre album. Je voudrais vous parler aussi de la conclusion. Le nombre de personnages à lunettes que vous faites, c'est incroyable.
Bonne remarque, mais vous avez raison, j'adore dessiner les lunettes.
Ah, mais ça se voit, il y a des lunettes avec plein de formes, carrées, etc., qui vont avec le personnage. Va-t-il être.
Oui, même le pauvre.
Même mon personnage en pleine préhistoire porte des lunettes.
Avant de passer à La Pierre Bleue, je reviens. À un moment, il fallait le conclure, cet album. La scène de fin. Comment vous l'avez... Alors maintenant, on est à la fin. Comment vous avez pensé... est-ce qu'il y a eu des fins alternatives? Vous avez fait des tests ou cette scène de danse?
Cette scène de danse et de chant, elle est venue très vite. C'est Antoine qui me l'a proposé. Donc, on était sortis de tout ce parcours historique, etc. Et on a croisé beaucoup de choses très graves. Et un des chapitres juste avant, c'était toute la répression pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on voulait quand même finir sur une touche exaltante et de joie.
Et la danse a toujours fait partie de la communauté. Eh bien voilà, vous avez vu une discussion intensive et intéressante, passionnante même j'ai envie de vous dire, une question d'actualité, j'ai également envie d'ajouter. On se retrouve la semaine prochaine, cette fois en compagnie de Roger, avec peut-être bien un petit épilogue pochep où on parlera de la fameuse bande dessinée qu'il a sortie chez BDQ. Ouh, voilà un teaser, BDQ, vos oreilles se sont dressées, vous avez bien fait. Je vous rassure, c'est plus encore humoristique que pornographique. Et oui, monsieur Pochep aime faire rire les gens. À la semaine prochaine, en compagnie de Roger, et puis bonne lecture tant qu'on a le droit.